Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation. Vas-y.
On est tous un peu indignés et surpris.
Carte blanche.
C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qu'ils ont juste pas trouvé le courage de dire non.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Salut Philippe Vincent, bon vendredi.
Ben oui. Tu veux me parler de Joe Biden, mais sous l'angle d'Haïti.
À défaut de parler de notre ami Trump, qui n'a pas été incommodé cette semaine. On en parlait mercredi matin. On se demandait si le grand jury allait rendre sa décision. Et c'est pas arrivé. Peut-être qu'il y a des arbitrages plus fins ou des discussions plus vives au sein du grand jury, qu'on est moins convaincu de ce qu'il faut pour accuser l'ancien président. Ce sera à suivre sans doute la semaine prochaine. En attendant, c'est l'actuel président des États-Unis, M. Biden, qui faisait de dos à Ottawa hier. Il est venu voir son pote, Justin Trudeau. Beaucoup de choses vont être discutées. Certainement la question du chemin Roxane. Ça a coulé depuis 24 heures. Est-ce qu'on serait arrivé à une solution? Le Canada faisait beaucoup pression sur les États-Unis. Mais je pense aussi que Haïti va figurer au sommet des discussions entre le président et le premier ministre Trudeau aujourd'hui. On en a déjà parlé, tu le sais, c'est un État en faillite, Haïti, déliquescent, qui est aujourd'hui pour l'essentiel sous le contrôle du crime organisé. Une plaque tournante aussi pour une nébuleuse internationale de ce qu'on pourrait appeler ou qualifier d'international du banditisme. La règle de droit n'existe plus vraiment. L'insécurité est probablement plus grande, même qu'en zone de guerre. On a vu M. Trudeau ou encore Mélanie Joly, notre ministre des Affaires étrangères, qui défilait à Kiev sans hésitation, un pays en guerre. Je pense que c'est pas un hasard si on n'a pas été vu à Port-au-Prince, où nous avons des intérêts beaucoup plus intimes qu'en Ukraine, ne serait-ce qu'en raison de la diaspora haïtienne qui vit chez nous. Pourtant, c'est un peu, sinon beaucoup, le silence radio. Haïti, laissé à lui-même, est en danger. Et c'est aussi un danger qui pourrait pourrir et qui peut déjà pas mal pourrir la vie à tout l'hémisphère, sans compter les citoyens qui sont depuis très longtemps déjà eux-mêmes abandonnés et qui sont aux premières loges du chaos. Les pressions migratoires vont s'accentuer. Beaucoup de gens qui veulent fuir le pays et ça pas fini de se faire sentir chez nous, mais aussi aux États-Unis. Joe Biden le sait parce qu'il y a de plus en plus d'Haïtiens qui entrent par le Mexique, donc qui choisissent d'aller vers le Mexique et ensuite de traverser à pied, comme les Sud-Américains, la frontière mexicaine ou la frontière américaine dans ce cas-là, des gens qui ensuite pourraient venir cogner à notre porte via le chemin Roxham si, au cours des prochains jours, ils n'étaient pas fermés. Alors aujourd'hui, le président américain va répéter sa demande d'intervention du Canada en Haïti pour essayer de stabiliser le pays. Ça fait partie des échanges de bons procédés entre pays alliés. Les États-Unis vont dire, ben écoute, nous on s'occupe de ça, pourrais-tu s'il vous plaît? Et compte tenu aussi de nos intérêts, compte tenu de cette diaspora dont je parlais, il va dire à M. Trudeau, est-ce que tu pourrais peut-être nous soulager du côté haïtien? Parce que c'est une forme de pression aujourd'hui et peut-être encore plus grande demain sur les États-Unis avec un possible flot migratoire qui augmenterait. Donc, c'est dans ce genre de conversation des affaires habituelles. Monsieur Chrétien fait beaucoup ça avec ses interlocuteurs. Scratch my back and I'll scratch yours. Gratte-moi dans le dos, je vais te gratter à mon tour. Justin Trudeau, lui, doit trouver ou va essayer de trouver le moyen de dire non, poliment, mais de pas fermer la porte à de l'aide. Question de montrer qu'on va pas se défiler. Et tout ça va illustrer, je pense, deux choses. D'abord, sur le principe, envoyer quelques-uns de nos militaires dans un gigantesque piège à cons, puis je parle pas du pays comme de la situation, c'est une erreur tactique, sinon stratégique, monumentale, une catastrophe en attente d'arriver. Les soldats, si on les envoyait, seraient isolés, incapables d'agir, débordés par les forces en présence, j'en suis convaincu. Puis d'ailleurs, combien pourrions-nous en envoyer? Je pense que le plus fort déploiement dans les pays baltes. C'est 700 soldats canadiens. Donc, combien on pourrait en envoyer, nous, en Haïti? Je le disais, ils seraient isolés. Et on est là-bas, plus en face de quelques gangs de bombes plus ou moins armées. Ce sont vraiment des armées, plutôt de criminels qui contrôlent des pans entiers du pays. T'essayes d'imaginer, dans un scénario où on serait déployé une fusillade en règle avec nos forces qui seraient aux prises avec ces bandes armées. Imagine, ça se passerait à ton émission un peu partout, ça serait immédiatement des appels à ce qu'on rapatrie nos soldats, qu'on revienne. C'est un scénario que j'ose même pas imaginer, pourtant, vite là-dedans. Je disais d'abord, c'est le premier problème, puis ensuite, la réalité, c'est que même si on arrivait à la conclusion que nous avons cette responsabilité d'intervenir, on n'en a juste pas les moyens. Le Canada, c'est la grenouille à grande bouche. On est sur tous les fronts, surtout quand vient le temps d'énoncer des principes.
On est des bons vertueux, là.
Exact. Mais quand on nous demande de passer à l'action, on est beaucoup moins bruyant, comme la grenouille à grande bouche. Et c'est un peu l'avantage avec l'Ukraine. On peut se permettre de rouler les mécaniques puis d'emmener large parce que l'essentiel de l'effort, ben, c'est pas nous qui le faisons. Si on devait déployer des forces en Haïti, on serait un peu laissé à nous-mêmes. On dit qu'on est en train de négocier, par exemple, avec peut-être des pays africains francophones pour ajouter un contingent, mais l'essentiel de la responsabilité, ça serait sur les épaules du commandement militaire canadien, puis je pense qu'ils sont assez avisés, nos militaires, pour savoir que c'est une mauvaise idée compte tenu de nos ressources. Alors, la solution politique est probablement ce qui se dessine, une forme donc d'aide aux forces policières, si seulement on peut être convaincu que cette aide va se rendre et aider aussi vraiment ce qui reste des forces de l'ordre. Parce que la vraie question, c'est est-ce qu'il y a encore là-bas des policiers, des forces vives qui n'ont pas été gangrénées par la corruption et le crime organisé? Point d'interrogation. Donc, quand on parle de déployer une aide qui serait à la hauteur de 250 millions de dollars, est-ce qu'on va aider à la cause ou on le fait parce que ben on veut pas démériter quand on discute avec les Américains? L'enjeu est sérieux. Puis je pense que Haïti, je suis certain, c'est un vrai test. Puis le prochain, puis je vais avoir l'air encore une fois de faire de la politique fiction, mais je suis certain aussi que ça va apparaître sur nos écrans radars, le prochain test, beaucoup plus sérieux pour l'équilibre mondial, c'est l'Afrique du Sud. C'est encore peut-être le pays le plus riche du continent, fer de lance du développement économique, et qui, j'allais dire, est en train, mais a probablement totalement basculé dans le chaos. Très certainement, l'histoire la moins rapportée ou documentée de l'actualité internationale en ce moment. Puis il y a un parallèle à faire avec Haïti, parce que ça se ressemble, même si les aiguillons, en fait, ce qui fait que le chaos émerge, c'est pas exactement la même chose. C'est une histoire, certainement, de corruption au plus haut niveau du pouvoir politique, avec un effondrement programmé de toutes les composantes de ce qu'on pourrait appeler la vie civilisée. Les structures de distribution énergétique sont incapables de répondre aux besoins. Il y a des délestages continuels d'électricité dans un contexte d'insécurité permanente. Tu peux imaginer quand il n'y a plus d'électricité la nuit, donc plus de système d'alarme, plus de lumière, plus d'éclairage.
Plus d'eau, de chauffage.
Plus, rien, exactement. Forces policières qui ont été remplacées progressivement ou débordées par des milices. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de miliciens, de police privée qu'il y a de police officielle en Afrique du Sud. Souvent des polices privées ou des miliciens qui protègent les plus nantis, qui vivent de manière assiégée. La criminalité est tellement explosive qu'elle est difficile à mesurer. Je ne donnerai pas de chiffres parce que ça donne le vertige et ça fait vraiment très, très peur. Des infrastructures, tu viens de le dire, minées. Je te disais, c'était pas une blague, je pense, il y a une semaine dans une conversation, que les réseaux ferroviaires, les rails, sont volés pour l'acier. Le réseau d'aqueduc perd plus de 60% de son eau. Alors, si Haïti est un problème aujourd'hui, près de chez nous. L'Afrique du Sud va en être un aussi. Puis je t'assure que ça va interpeller tous les pays du monde. Pour l'instant, il y a les Russes, les Chinois qui rôdent, mais j'en suis convaincu aussi, le crime organisé. D'ailleurs, il est déjà bien implanté. Parler d'Haïti, c'est évidemment une charité qui devrait être bien ordonnée, d'abord pour les Haïtiens, pour la diaspora, mais aussi pour l'équilibre de notre hémisphère. Mais c'est peut-être aussi de commencer à penser à d'autres pays déliquescents où l'état de droit ne règne plus ou ne règnera plus. Et dans l'ordre des mots de tête, je dirais l'Afrique du Sud, ça pourrait être une migraine carabinée pour la communauté internationale. Je suis convaincu qu'on va en parler.
Bon, parle-moi de ton émission de ce soir.
Oui, puis un mot peut-être sur le balado que j'ai mis en piste hier, Contact, que je veux faire une plug parce que c'est un personnage qui m'intéresse. Je l'avais justement reçu au Monde à l'envers en novembre dernier, professeur au département de psychologie à l'Université McGill, Martin Drapeau. Je t'avais parlé de Samuel Vessière qui enseigne aussi à McGill, qui nous avait parlé des enjeux trans il y a quelques semaines, puis des risques qu'il y a à le faire. Puis tu me disais, je suis surpris des fois de voir des gens qui ont la sécurité d'emploi trembler dans leur botte. Il faut voir jusqu'à quel point ils l'ont pour ne pas trembler dans leur botte. Dans ce cas-ci, Martin Drapeau a cette sécurité d'emploi et a choisi d'assumer pleinement et entièrement ses convictions et de se tenir tout à fait droit dans ses bottes, de dénoncer sur la place publique. Il l'a fait dans le Devoir à une époque où le département pensait changer, modifier les critères d'admission à son programme de maîtrise et de doctorat en psychologie en rendant, je dirais, en rendant de plus en plus important une grille de lecture politique des étudiants et en les choisissant aussi en fonction de critères d'identité. C'est une affaire qui l'inquiétait beaucoup, évidemment, en disant ce qu'on va, par exemple, favoriser. La caricature est vilaine, mais c'est là qu'on peut se retrouver. Est-ce qu'on va favoriser entre étudiants compétents une mère monoparentale au dépend de ce que pourrait être un père monoparental? Encore une fois, je convient que la caricature peut être vilaine, mais ça pouvait mener à ça. Alors, c'est pas arrivé. McGill a rebroussé chemin. Mais sur un paquet d'enjeux aujourd'hui, le professeur dit il y a une politisation de plus en plus grande de l'enseignement en psychologie. Et ça a des impacts parce que ce sont des gens qui, éventuellement, auront à interagir avec des patients. Et ça a des impacts parce que beaucoup des gens qui sont sélectionnés, dans le cas de McGill, le sont en fonction de critères qui font qu'à terme, ils ne serviront peut-être pas au Québec. Où on le sait, il y a aujourd'hui 20-22 mois d'attente dans le secteur public pour voir un psychologue ou avoir des services en soins de santé mentale. Donc, conversation, je pense, importante. Un homme qui a payé cher le prix d'avoir manifester son point de vue, qui a été forcé à prendre un long congé professionnel, congé de maladie, qui est de retour et qui a beaucoup de choses à dire. Donc, à Contact cette semaine, depuis hier, c'est en primeur sur le site de Cube. Et puis ce soir à l'émission, quelque chose aussi d'intéressant. Tu connais l'affaire Marion, Charles Marion, qui avait été kidnappé à la fin des années 70. Quelqu'un qui travaillait dans une caisse populaire, on demandait une rançon $1 million. Est-ce que ça te rappelle quelque chose?
Vaguement.
Alors, c'est quand même la séquestration la plus longue de l'histoire du Canada. 82 jours dans un trou. Ça se passait dans les cantons. Quand je dis dans un trou, littéralement, là, dans un terrier, il a été caché. Et très longtemps, et même peut-être jusqu'à aujourd'hui, avec la rumeur ou l'idée que Charles Marion, kidnappé, et son fils Pierre étaient peut-être complices de l'enlèvement, en fait, qu'ils auraient peut-être organisé eux-mêmes l'enlèvement, et c'est la police qui avait laissé filtrer. Or, aujourd'hui, c'est une vieille histoire qui remonte à la surface. Je pense qu'il y a eu une série, d'ailleurs, consacrée sur Vrai l'an dernier, une petite série de 6 épisodes à l'affaire Marion. Elle est passionnante. Aujourd'hui, le petit-fils de Charles Marion qui avait été kidnappé, Alexandre, sera avec nous à l'émission parce qu'il y a des informations nouvelles dont on n'a jamais entendu parler, entre autres un test de polygraphe pourrait peut-être faire la démonstration que les policiers savaient depuis très longtemps que ni Charles Marion ni son fils Pierre ne mentaient, qu'ils n'étaient absolument pas impliqués dans cet enlèvement. Donc, Alexandre est avec nous et va exiger des excuses très publiques des services policiers. Il pourra aller plus loin si ses excuses n'étaient pas entendues. Je rappelle quand même que son grand-père, Charles Marion, qui avait été kidnappé 82 jours, une vingtaine d'années plus tard, s'est suicidé. Et toute sa vie a souffert de ce qu'on pense. Il avait peut-être plongé dans son propre enlèvement. Des techniques policières qui aujourd'hui sont peut-être pas les mêmes qu'à l'époque, mais ça laisse des traces durables dans une histoire familiale. Donc, en primeur, en exclusivité, ce soir, Alexandre Marion est avec nous sur le plateau.
Bonne émission, Stéphane. Salut.
Ciao.